10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à tous, bien chers auditeurs, nous nous retrouvons pour notre deuxième rendez-vous de l'année. À mes côtés, Charlotte. Bonjour Charlotte.
Bonjour Antoine et bonjour à tous. Après un premier numéro sur la Russie, nous prolongeons d'une certaine manière notre réflexion puisque nous allons aujourd'hui aborder un pays qui est frontalier. Nous allons parler de l'Ukraine.
Donc pardon par avance à tous ceux qui avaient envie d'un peu plus d'exotisme, peut-être un pays chaud en cette période hivernale, mais l'actualité internationale, pleine de soubresauts, aurait pu nous conduire plus loin effectivement, mais la situation en Ukraine, bien moins simple qu'il n'y paraît, appelait quelques éclaircissements.
Car que se passe-t-il vraiment? Est-ce la marche d'un peuple uni contre un régime tyrannique, comme on le conçoit en Europe, ou alors une tentative de coup d'État, comme le dénonce Vladimir Poutine en Russie? C'est la question que l'on s'est posée pour cette émission. Alors cap sur l'Ukraine.
3, 2, 1, 0.
Le monde ne suffit pas.
Et pour nous expliquer la situation ukrainienne, nous accueillons aujourd'hui Emmanuel Boulino. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous enseignez la géographie à l'ENS de Lyon et vous faites partie du laboratoire Environnement, Ville et Société. Vous avez beaucoup écrit à propos de l'Europe de l'Est et en particulier à propos de la Bulgarie, des Balkans et de la question de l'élargissement de l'Union européenne. Donc on est en plein dans le sujet.
Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que vous êtes au micro de Transistor. Vous étiez venu parler de la Roumanie dans le tout premier numéro de Le Monde ne suffit pas en septembre 2010. C'était d'ailleurs la toute première fois que je m'essayais à la radio. Donc, bon retour à Transistor.
Merci. Pour situer les événements dans leur contexte, quelques données géographiques et historiques peut-être. L'Ukraine est un État indépendant depuis le référendum du 24 août 1991, après avoir été sous la tutelle de l'URSS pendant de nombreuses années. Lors de la domination soviétique, les relations entre l'Ukraine et Moscou ont été à un certain moment très tendues, extrêmement tendues. Staline a tout fait pour freiner le nationalisme ukrainien, allant jusqu'à affamer le pays entre 1931 et 1933 et causer la mort de 2,5 à 5 millions d'Ukrainiens, ce qui n'est pas négligeable.
Géographiquement, le pays est un peu à l'image de son passé, mais aussi de son présent. À l'ouest, peuplé de populations ukrainophones, on concentre la majeure partie de l'agriculture du pays, quand l'Est russophone est plus tourné vers l'industrie. Ce pays cherche donc sa place entre l'Europe occidentale et la Russie, et ce n'est pas nouveau. Souvenez-vous de la Révolution orange de 2004. De gigantesques manifestations avaient eu raison du président Yanukovych, pro-russe et donc soupçonné d'avoir triché aux élections. Les Ukrainiens sont retournés aux urnes et ont élu son opposant pro-européen, Viktor Yushchenko.
C'est donc en quelque sorte l'histoire qui se répète. La crise politique actuelle a commencé avec le refus de l'actuel président ukrainien Viktor Yanukovych, donc le même que celui que les manifestations avaient chassé en 2004. Son refus donc de signer le pacte d'association avec l'Union européenne pour se rapprocher plutôt de la Russie de Vladimir Poutine, qui souhaite constituer une union douanière qui rassemblerait plusieurs anciennes républiques de l'URSS dans un marché commun.
Et après le vote de la confiance au gouvernement, malgré les manifestations rassemblant plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens à Kiev, notamment sur la place de l'Indépendance, rebaptisée pour l'occasion Place de l'Europe, et après des répressions policières qui n'ont fait que renforcer la mobilisation, Viktor Yanukovych souffle le chaud et le froid, tantôt en annonçant des pourparlers de sortie de crise, tantôt en raffermissant son pouvoir. Donc finalement, la première question qu'on aimerait vous poser, c'est qui est vraiment Viktor Yanukovych? Pointe souvent du doigt un certain autoritarisme, mais est-ce que le régime ukrainien est-il autoritaire? Est-il forcé par la Russie?
Alors, un régime forcé par la Russie, j'espère que non. Ils ont quand même montré avec la Révolution orange qu'ils pouvaient faire preuve de démocratie et puis de choix direct, les Ukrainiens. Alors effectivement, le retour d'Yanukovych est intéressant parce qu'on a là un russophile qui est arrivé au pouvoir par le biais d'élections tout à fait démocratiques. Alors qui est ce personnage? Alors c'est vrai que quand on regarde la presse côté français, on a un certain point de vue. Donc récemment dans les journaux, on lisait effectivement que c'est un homme qui a une fortune et qu'il s'est d'autant plus enrichi pendant qu'il était au pouvoir, que son fils en profite aussi et que tous leurs intérêts sont essentiellement tournés vers la Russie. Donc là, moi j'ai pas plus d'informations que ça, mais effectivement. Il reste quand même dans la mouvance, on va dire, de la Russie. et effectivement plutôt favorable à Vladimir Poutine.
Mais juste, si je peux me permettre, juste une question. Comment est-ce que vous expliquez qu'il soit revenu au pouvoir alors qu'il en avait été chassé? C'est un revirement de mentalité des Ukrainiens. Je comprends pas en fait comment c'est possible d'avoir fait une révolution pour chasser un homme et ensuite de le rappeler au pouvoir.
Alors, peut-être une grande déception de l'ancien gouvernement, ça peut arriver. On sait que c'est des pays qui, effectivement, quand ils choisissent l'alternance démocratique et l'ouverture internationale, il y a souvent, effectivement, des gros sacrifices de faits. Et en général, c'est souvent la population locale, celle qui va voter, hein, qui voit se renchérir le prix de l'électricité, le prix du coût tout simplement de la vie quotidienne, et ça se traduit dans les urnes, ça c'est évident. Après, effectivement, c'est quelqu'un qui avait gardé des réseaux de pouvoir et donc qui a pu revenir à l'avant de la scène politique par ce biais-là.
Et à propos de l'opposition, bon, en Europe occidentale, on a tendance à se représenter les méchants du gouvernement ukrainien et des Russes face aux gentils qui seraient le peuple en marche vers son destin et la démocratie. Alors, est-ce que c'est si simple? Parce que bon, la présence parmi l'opposition qui manifeste, par exemple du Parti Liberté, qui il y a encore peu arborait une forme de croix gammée pour symbole, semble montrer que les choses sont peut-être plus compliquées. Alors, qui est vraiment l'opposition qui manifeste?
Bon, elle a l'air très disparate, cette opposition, enfin politiquement, hein, il y a quand même plusieurs mouvements. Et puis effectivement, après, quand on regarde bien, c'est plutôt une opposition de type urbaine et des jeunes gens. Donc il y a un effet de génération, quoi qu'on a vu quand même quelques personnes un peu plus âgées. Mais c'est quand même plutôt voilà la jeunesse urbaine qui manifeste en Ukraine, mais qui pour l'instant n'a pas l'air de vouloir lâcher du lest. À voir dans les jours qui viennent comment va se passer la suite, puisqu'on sait que donc Viktor Yanukovych est actuellement en Russie et il rencontre Vladimir Poutine.
Et les partis politiques, apparemment il y en a trois principaux, qui vont des libéraux jusqu'aux ultranationalistes. Politiquement, qu'est-ce qu'ils ont en commun à part la volonté que Yanukovych parte? Est-ce qu'ils peuvent construire une alternative cohérente?
Alors, le parti Liberté, c'est quand même un parti d'extrême droite. Je trouve que je suis allée à Kiev au mois de septembre et j'ai vu une manifestation de ce parti Liberté. Donc effectivement, ça fait un petit peu peur quand vous voyez les personnages. Et puis effectivement, il y a aussi de la violence. Hein. On les a vus qui détruisaient une barricade. Donc ils n'ont pas l'air d'être très très fréquentables. Après, effectivement, l'autre parti. Alors après, il y a toujours la figure effectivement de Yulia Tymoshenko qui est en prison. Donc là se pose la question quand même de la démocratie en Ukraine. Il y a une opposante en prison. Il y a effectivement dans les votes, lors des élections, on n'est pas toujours sûr que tout se passe correctement. Mais voilà, ils ont déjà eu une alternance politique. Ils peuvent continuer à l'avoir.
Les Ukrainiens, à votre avis, soutiennent-ils en majorité les manifestations ou est-ce plutôt le fait de la jeunesse qui serait en quelque sorte une minorité très visible mais pas forcément représentatif du peuple tout entier?
Alors ça, c'est vrai que c'est difficile à savoir. Est-ce que ça bouge ailleurs qu'à Kiev? Est-ce que les gens manifestent dans les autres villes, les grosses villes en mer de Crimée ou bien du côté de Kharkov à l'est? Moi, j'ai plutôt, de ce que j'ai vu et entendu, il y a quand même des gens qui viennent des autres villes et qui viennent à Kiev. Donc ça reste le point de rassemblement, Kiev, mais on voit bien que les gens viennent d'ailleurs. Et ils viennent manifester, effectivement, quelques jours ou une journée, ils font l'aller-retour pour venir manifester à Kiev. L'ampleur du mouvement, elle n'a pas l'air pour l'instant, effectivement, de se réduire. Et puis espérons effectivement que ce n'est pas uniquement la jeunesse ukrainienne qui se saisit voilà, du mouvement.
C'est-à-dire que si on faisait un référendum aujourd'hui, on ne serait peut-être pas certain que la population dans son ensemble demanderait à Yanukovych de partir.
Ah, alors ça, on ne sait jamais ce qui sort des urnes. On peut pas dire effectivement ce qui se passerait. La question, c'est qui est crédible en face, qui est force de proposition pouvoir éventuellement, à l'issue des urnes, remplacer Yanukovych. Là, c'est la question.
L'Ukraine, on l'aura compris, se trouve pris entre deux entités qui cherchent à définir leur zone d'influence, l'Union européenne et la Russie. L'Ukraine est donc, si je puis dire, une clé de voûte géopolitique.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Alors, J'essaie de m'expliquer. En fait, l'UE a pour projet de se rapprocher de 6 anciens pays de l'URSS et peut-être de les intégrer à moyen ou long terme. Il s'agit d'un partenariat oriental qui comprendrait l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et donc l'Ukraine. Mais voilà, de par sa population importante, près de 46 millions d'habitants, et par sa superficie, l'Ukraine a un rôle crucial et sa non-participation à ce projet pourrait valoir abandon.
Et donc en fait, Moscou, qui souhaite garder une forte influence sur ses anciennes démocraties populaires, à travers donc cette union douanière qui inclut le Kazakhstan et la Biélorussie, a bien compris l'enjeu en fait de l'Ukraine.
Exactement.
Donc selon vous, est-ce que l'intégration à l'Union européenne est-elle possible? Qu'est-ce que l'Ukraine en fait a à y gagner? Et est-ce qu'elle le veut vraiment, dans le fond, cette intégration à l'Union européenne?
Alors comme vous l'avez dit, effectivement, on est dans une clé de voûte géopolitique. On a effectivement donc l'ouest du pays qui est tourné vers l'Union européenne. Les Ukrainiens ont beaucoup de contacts avec la Pologne. La Pologne soutient l'Ukraine dans le processus d'adhésion. Et les relations sont assez anciennes. Enfin, historiquement, une partie de l'Ukraine avait été dans l'ancienne Pologne. Donc, enfin voilà, il y a des liens. Et la Pologne donc soutient l'Ukraine. Il y a des eurorégions. Enfin, il y a des contacts effectivement très très importants. Et de l'autre côté, donc du côté est, effectivement, on a un pays qui jouxte la Russie. Et qui a aussi des gros intérêts économiques, une certaine complémentarité économique avec la Russie, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors du coup, est-ce qu'ils veulent vraiment entrer dans l'Union européenne? Qu'est-ce qu'ils gagneraient à rentrer dans l'Union européenne? Et puis il faut voir aussi qu'est-ce que l'Union européenne pourrait y gagner. Alors souvent, ce qui est intéressant, c'est quand les pays demandent à adhérer à l'Union européenne, souvent il y a des référendums après de... On demande aux pays, enfin aux électeurs de valider. Hein, il y a des référendums d'adhésion à l'Union européenne. Effectivement, l'Ukraine, il n'y en a pas eu pour l'instant. Donc moi, j'aimerais bien voir quand ils adhéreront probablement, on ne sait pas, il y aura probablement un référendum. En tout cas, effectivement, l'Ukraine, elle est vraiment symbolique. Donc y compris pour l'Union européenne, 46 millions d'habitants, ça sera quand même un élargissement très important en termes de poids démographique. Et puis même, c'est un grand pays en termes d'extension. Hein. Donc il y a un vrai enjeu symbolique. Pour l'Ukraine, effectivement, se tourner vers l'Union européenne, économiquement, ça peut être intéressant. C'est accéder à un grand marché, hein, à ce marché commun. Quand il y a des accords d'association, effectivement, le marché commun est déjà un petit peu ouvert à ces pays-là pour qu'ils se mettent un peu, notamment, aux normes de l'Union européenne. Et puis, moi, je pense qu'il faut aussi se poser la question, parce qu'on est citoyen européen, de savoir qu'est-ce que l'Ukraine apporterait à l'Union européenne. Et là, je pense que et ce qui se passe en ce moment en Ukraine est intéressant, parce que je pense qu'on teste... aussi la capacité de l'Union européenne à avoir une politique, à avoir une vision sur son élargissement. Et malheureusement, elle ne l'a pas, cette vision, l'Union européenne, pour l'instant. On voit des manifestants pro-européens, hein, c'est la rue qui descend, donc qui va à l'encontre de son gouvernement, et l'Union européenne n'est pas capable d'avoir un discours audible sur sa volonté de voir l'Ukraine rentrer dans cette Union. Parce que cet élargissement à l'Est, il est à la fois symbolique, il est à la fois, on est toujours en Europe, hein, et il faut donc pouvoir soutenir ces pays-là et savoir ce qu'on veut en faire. Le gros intérêt de l'Ukraine pour l'Union européenne, c'est qu'elle est sur la route des énergies. Vous savez que l'Union européenne a besoin, on a une consommation énergétique en gaz et en pétrole.
Qui vient de la Russie?
Qui explose, qui vient de la Russie. Et effectivement, l'Ukraine est sur les grands gazoducs, les grandes routes énergétiques. L'Union européenne, en partie, s'approvisionne avec le gaz et le pétrole russe, surtout du pétrole d'ailleurs. Et du coup, effectivement, elle veut aussi diversifier ses approvisionnements. Il ne faut pas être dépendant uniquement hein, des hydrocarbures russes. Mais via l'Ukraine, passe beaucoup de ces routes d'hydrocarbures. Donc il y a un réel enjeu de ce côté-là.
L'option d'un rapprochement avec la Russie, qui est pourtant décriée par les manifestants, est-ce qu'il pourrait être aussi peut-être profitable d'une autre manière à l'Ukraine? Ou ce serait une mauvaise option, un mauvais choix?
Ben oui, c'est pour ça que l'Ukraine est entre les deux et que c'est une vraie clé de voûte. C'est-à-dire que ça serait à la fois pour l'Union européenne comme pour la Russie, attirer l'Ukraine dans son giron, C'est très important. L'intérêt de l'Ukraine vers la Russie, c'est effectivement donc une partie de russophones, et même linguistiquement, l'ukrainien est proche du russe. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que l'Ukraine... Alors, la question des énergies se pose encore pour l'Ukraine, c'est-à-dire que pourquoi la Russie a réussi à attirer l'Ukraine, c'est qu'effectivement, ils ont fait valoir que le prix du gaz, notamment, baisserait. Si l'Ukraine se tourne vers l'Union, Moscou va augmenter ses prix. Donc là, il y a un vrai intérêt. Il y a un autre enjeu, c'est qu'il ne faut pas oublier la complémentarité. L'Ukraine faisait partie de l'URSS et tout l'outil industriel et économique se faisait à l'époque de l'URSS en complémentarité, avait été pas mal construit en complémentarité avec la Russie. Donc ce qui intéresse Moscou aussi, c'est toutes les hautes technologies autour de l'aéronautique qu'a pu conserver l'Ukraine et dont l'industrie russe, notamment du secteur militaro-industriel, aurait besoin. L'Ukraine a encore une force industrielle. Elle produit notamment beaucoup de matériaux ferroviaires. Donc la Russie est aussi intéressée par ces complémentarités économiques qu'elle peut tisser avec l'Ukraine.
Mais moi, j'avais juste une question. L'Ukraine, elle ne fait pas partie de la CEI qui a été créée après la chute de l'URSS.
Oui, mais la CEI, c'est une coquille vide. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà. Donc, il faut la politique de la Russie avec cette union douanière. Hein, c'est vraiment constituer un ensemble économique régional, alors d'ampleur presque mondiale, puisque la Russie, c'est quand même le plus vaste pays du monde. Mais effectivement, la CEI n'ayant pas marché, c'était une construction plutôt politique. La Russie, maintenant, effectivement, fait l'union douanière.
Et en deux mots, peut-être, pour que ce soit clair pour tous les auditeurs, la CEI, en deux mots, qu'est-ce que c'est ?
Alors, la CEI, c'est la Communauté des États indépendants. Elle a été effectivement créée sur les décomptes de l'URSS, hein, à partir du moment où les pays ont déclaré leur indépendance. On sont sortis de de l'Union soviétique. La Russie a essayé effectivement de conserver des liens, notamment politiques, en créant une communauté des États indépendants. Mais tous les pays n'y ont pas adhéré. Par exemple, les pays baltes avaient refusé. Et voilà, ça s'est avéré très vite une coquille vide.
Et donc l'Ukraine, est-ce qu'elle pourrait éventuellement choisir une troisième voie ? Une autonomie vis-à-vis de la Russie, mais aussi de l'Union européenne, où elle n'en a pas les moyens ?
Qu'est-ce que ça veut dire maintenant une troisième voie ? Ça veut dire s'imposer comme une puissance régionale. Alors entre l'Union européenne et la Russie, c'est quand même un peu l'étau. Et puis il y a une troisième puissance régionale qui émerge, c'est la Turquie, hein, au sud de l'Ukraine, enfin de l'autre côté de la mer Noire. Et là, vous avez vraiment une puissance régionale qui émerge. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de place pour l'Ukraine. Hein, qui est coincé entre Russie, triade. Union européenne, et puis une autre puissance régionale qui est la Turquie.
Selon vous, est-ce qu'il y aurait un risque de guerre civile, voire de scission en Ukraine, vu que c'est très divisé géographiquement comme zone ?
Alors je ne pense pas, parce qu'effectivement, les Ukrainiens ont quand même pu faire preuve... Il y a une identité, mais il y a eu des mouvements nationalistes, donc il y a quand même un sentiment d'être ukrainien. Que l'on soit russophone ou que l'on soit polonophone du côté de la Pologne, ils partagent des choses en commun. Et donc, je vois pas pour l'instant le risque de guerre civile. On n'est pas dans le cas de la Moldavie voisine où il y a vraiment eu une scission de la région russophone.
Nous arrivons peut-être au terme de notre petit périple ukrainien. Merci beaucoup, Emmanuel Boulineau, pour ces explications. J'espère, chers auditeurs, que vous comprenez désormais un petit peu mieux ce pays.
Merci aussi à vous qui nous écoutez et merci à Nicolas à la technique. Donc merci et auditeurs, vous avez bravé l'horrible page provisoire de notre site Hélas en maintenance et nous vous remercions de votre fidélité.
À très bientôt sur Transistor, en espérant que jamais le monde ne suffira.